La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Yasmine Youssi et Corinne Rondeau se font face à notre affiche Picasso Giacometti au Musée National Picasso Paris, Frédéric Basile, la jeunesse de l'impressionnisme au Musée d'Orsay. Nous évoquerons également plus rapidement deux livres, Figure Pissante, 1280-2014 de Jean-Claude Lebenstein et Lettre à mon fils de Fouad El Khoury, illustration de Namiaza Ziyad. Vers 21h, Lucille Como nous entraînera dans le petit salon pour débattre avec elle de la candidature de la France pour l'organisation de l'Exposition Universelle 2025. Puis bien sûr, il y aura des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film L'Ornithologue de Jean-Pedro Rodriguez, sorti aujourd'hui dans les salles. Et nous ouvrons cette émission en nous rendant une fois encore au musée Picasso Paris pour découvrir l'exposition Picasso Giacometti. La commissaire est Catherine Grenier, directrice de la Fondation Giacometti, et les commissaires associés Serena Boccalo-Musselli, attachée de conservation à la Fondation Giacometti, et Virginie Perdrizo, conservatrice du patrimoine au Musée National Picasso Paris. L'exposition présente plus de 200 œuvres, des 2 mètres provenant de riches collections, d'une part du musée Picasso et de la fondation Giacometti, beaucoup de prêts, de collections françaises et étrangères, certains documents inédits, des esquisses, des carnets, des annotations, qui souhaitent donc éclairer la relation entre les deux artistes et l'intérêt qu'ils se sont portés. On montre les premiers travaux de chacun d'abord et puis on part de cette rencontre, leur première rencontre en 1931, et à partir de là, l'exposition cherche à montrer des similitudes à la fois formelles et thématiques dans le travail des deux artistes, notamment la question de l'art et de sa relation réelle. On sait qu'ils se brouilleront en 1950 ou 51, quand Picasso refusera que Giacometti entre dans une galerie où il était lui-même représenté. Bon, voilà, le principe de l'exposition, en tout cas, on l'a compris, ils ont l'air si différents, mais en fait, ils sont si proches. Est-ce que la démonstration vous a convaincu, Yasmine Youssi ?
Non, c'est pas... Moi, si c'est une exposition qui cherche à faire une démonstration, c'est pas ça...
Ça, je vous le confirme. Hein,
c'est, oui, mais c'est pas clair. Ce que... C'est vraiment... Enfin, c'est pas la démonstration qui m'a convaincue là-dedans. C'est vraiment la manière dont chacun a traité de son côté. Il n'y avait pas forcément de lien à voir, même s'il y en a. Des fois, alors, ça peut sembler un peu artificiel dans les rapprochements. Mais c'est pas grave, à la limite. Moi, si c'est pour cette démonstration, non, l'exposition, elle m'intéresse pas plus que ça. Mais vraiment, dans la manière dont de les montrer côte à côte, de voir comment chacun a trouvé sa voie, comment chacun a creusé son sillon, et de voir comment chacun s'est emparé du thème et l'a traité. Parce que de voir... Bien sûr, il y a de nombreux points communs entre Giacometti, on le dit d'ailleurs d'emblée, et Picasso. Ils sont tous les deux nés à l'étranger, de père plasticien. Ils débarquent à Paris assez tôt. Ils sont tous les deux influencés par les arts premiers. Si on cherche à faire une démonstration, je crois que là, c'est presque 20, parce que Picasso a toujours une longueur d'avance.
20 ans de plus, mais
d'abord,
par ailleurs.
Parce que
mais
c'est
longueur
c'est
d'avance, on en va reparler.
Mais si vous voulez, là, et c'est en ça où je trouve que c'est pas ça ce qu'il faut chercher à faire, dans le sens où aussi où vous vous souvenez, Picasso disait « je ne cherche pas, je trouve ». Et effectivement, ça se révèle là encore, c'est-à-dire quoi que fasse Picasso, c'est une œuvre de Picasso d'emblée, avec une écriture de Picasso qui est immédiatement identifiable. Giacometti.
Mais on pourrait faire dire à Giacometti, je ne trouve pas, mais je cherche.
Ben oui, mais finalement, il trouve. Il trouve. Il trouve pas tout de suite, mais au début, tout ce qu'il est en train de chercher, on sait que ça va aboutir à autre chose. C'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Or, pour Picasso, tout se grave dans le marbre et tout reste comme étant du Picasso, pas de recherche, mais de trouvailles. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas très clair tout ce que je dis.
Ça me semble relativement clair.
Ah, vous me rassurez. Voilà, et Giacometti, on le voit creuser un sillon. Creuser pour y arriver. Et on le voit, c'est assez émouvant aussi dans les dessins. Et vous le voyez très bien dans les dessins que chacun fait, les croquis qu'ils font, les dessins qu'ils font sur les papiers journaux. Mmh. Picasso, c'est... Bah, j'en mets un, voilà. Giacometti, il y a plusieurs figures, et je reprends, et sur la même feuille. C'est presque jamais définitif, c'est presque jamais quelque chose qui est donné comme ça directement. Donc voilà, moi c'est il faut surtout pas le voir comme un combat, comme voir pour le voir comment chacun comment ils vont l'un va l'avoir sur l'autre, quand est-ce qu'ils sont en phase, quand est-ce que l'un influence l'autre. Le seul moment où ils sont en phase, même s'ils ont 20 ans de différence, pour moi, c'est au moment du surréalisme. C'est vraiment quand Picasso s'empare du surréalisme et quand Giacometti se met aussi au surréalisme. Et là, vraiment, on peut voir qu'au même moment, ils sont en train de travailler sur les mêmes choses. Par contre, bon, ben, c'est vrai que le cubisme, forcément, Giacometti emprunte à Picasso, mais il ne se trouve pas encore à ce moment-là. Alors que c'est quelque chose, Picasso fait son truc, puis après il passe à autre chose qui, encore une fois, voilà, moi ça m'a beaucoup intéressé. Maintenant il y a des choses qui sont un peu artificielles, quand par exemple chacun, on voit comment chacun travaille le thème des muses. Bon, ça c'est propre à l'histoire de l'art, donc c'est pas propre à Picasso et Giacometti, ils sont pas cherchés à ce niveau-là, quoi. Je pense qu'ils étaient suffisamment... Voilà. Puis la scénographie aussi, mais je trouve qu'elle amène bien l'exposition.
Je reviens vers vous, Yasmine Yossi, mais attendons d'abord les premiers commentaires, analyses de Corinne Rondeau.
Bien, alors j'ai un problème avec cette expo. Je trouve que c'est trop beau. C'est un accrochage où les œuvres sont faites pour être dans une dimension de toute puissance de l'un et de l'autre. Et effectivement, le jeu de comparatif, d'analogie, ça marche au début, c'est formidable. Des dissemblances aussi, évidemment. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai été vraiment dans... J'ai rangé mon carnet de notes, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, Giacometti, Picasso, donc ça va pas être dégueulasse,
ça. C'est que du bon.
Forcément.
Voilà. Et évidemment, alors, vous rentrez dans la première salle, vous avez deux femmes, l'une est une grande femme, l'autre une femme enceinte. Vous avez effectivement les journaux sur lesquels ils travaillent tous les deux. Et on a là tout de suite la manière dont l'un et l'autre font toujours travailler. C'est-à-dire, il y a une dimension massive, corporelle, physique, très forte chez Picasso. Puis une dimension d'étirement, de lignes. La question de la distance va s'opérer, on va le voir dans la deuxième salle. Donc, par exemple, sur le journal, Picasso, il écrase le support, il absorbe le support. Et donc, les traits de pinceau et d'encre noire font que le support appartient à la figure. Alors qu'effectivement, Giacometti, quand il fait ses têtes, ses essais, ses études de tête, il laisse au support être du support. Donc, il est vraiment dans sa tête. Il n'est pas dans plié, absorbé. Il n'a pas la présence physique. Donc évidemment, on est dans un rapport tout le temps entre l'optique et le physique de l'un et de l'autre. Il y en a un qui crée la distance, c'est se rapprocher en s'éloignant, c'est Giacometti. L'autre qui est toujours en train de donner des uppercuts, de faire de la masse, ou alors de creuser. Pendant qu'il y a la deuxième salle, vous avez des portraits, des bustes, des sculptures de femmes notamment. Giacometti, vous avez une variation qui est absolument incroyable. Picasso, il est là, il creuse, c'est vraiment cette présence physique, et on voit même leur physique à eux alors qu'ils sont absents, mais on retrouve quelque chose, une sorte de rapport physique et un rapport optique aussi aux deux. Donc évidemment, quand vous avez ensuite la deuxième salle qui est la salle des génies, vous avez les premiers portraits, ils sont en autoportrait de l'un et de l'autre, là encore Picasso massif, gros manteau, enfin bon, et l'autre à côté avec une espèce de... Il est accroupi, il a une manière de posture du corps qui rappelle tout, quoi. Ils regardent, ils sont en train de nous regarder tous les deux, ils nous regardent comme les œuvres vont nous regarder, c'est-à-dire, voilà, des rapports de plans, des rapports massifs. Et donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il faut trouver sa salle, quoi, je dirais. Parce que si vous êtes au dernier étage, alors là, il y a vraiment juste un jeu d'analogie formelle, les animaux, par exemple. Alors, les animaux, vous avez la chèvre, elle est grosse. Alors, vous avez le chat, elle est tout effilée. Oui. Donc, évidemment, celui qui travaille le vide, alors on va le retrouver dans la salle avec l'objet désagréable, la pointe à l'œil, cette manière dont, en fait, il fabrique de la sculpture, parce que c'est le vide qui fait tenir la sculpture. Donc, peu à peu, on a les mains qui s'enlèvent, et à côté, il y a du plan, c'est de la peinture de Picasso. Et là, on retrouve des formes qui se ressemblent, des formes oblongues, des formes circulaires, avec des couleurs. Donc, il joue sur, joue sur le rapport formel, sculpture, peinture. On le voit aussi dans la salle des portraits de femmes, avec une disposition en triangle, des petites sculptures, la petite à la plus grosse, et puis des couleurs très flashy de portraits. Alors, tout ça est formidable. Je veux dire, voilà, on en a plein les yeux. Mais, bon, moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que l'exercice était trop d'admiration, et il y avait, moi, j'ai trouvé ça trop beau et trop décevant.
Mais ça tourne presque à l'artifice, cette démonstration. C'est-à-dire, on veut tellement vous montrer quelque chose que les œuvres, elles se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de chercher à montrer, à vouloir faire une démonstration à tout prix. Et effectivement, Corinne a raison, c'est magnifique. Ça ne peut pas être, autrement. Bon, c'est pas trop, moi, je ne peux pas dire que c'est trop beau. C'est vrai que j'en ai pris, j'ai ressenti ça. Enfin, c'était un immense plaisir, de les voir, ce jeu de forme et tout. Il faut se laisser porter, pas chercher absolument à vouloir...
Non, mais je crois que Corinne... Ça pourrait être je vais revenir vers Corinne Rodeau, mais un sujet de petit salon, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expositions, et de plus en plus, qui veulent être des démonstrations, alors qu'après tout, ça n'a rien au mérite de Catherine Grenier, par ailleurs, du travail qu'elle fait, mais est-ce qu'on peut simplement dire, on va proposer de voir des Giacometti dans le musée Picasso, ça suffit, on n'est peut-être pas obligé de nous raconter une histoire.
C'est ça. Alors, justement, enfin, l'arrivée de Catherine Grenier, qui était donc avant au Centre Pompidou, elle est maintenant à la tête de la Fondation Giacometti. Catherine Grenier a apporté beaucoup de dynamisme à la Fondation. On voit des expositions de Giacometti partout. C'est certainement pas moi qui vais m'en plaindre, parce que nous, si on a la chance de pouvoir bouger pour aller voir des expositions, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, je me souviens que j'en ai vu une l'année dernière au Maroc qui racontait qui était Giacometti à Rama, au musée Mohamed VI. Et ça m'a fait plaisir, c'est vraiment quelque chose, parce que je voyais des gamins des écoles marocaines qui venaient et à qui on apprenait qui était Giacometti, et c'était formidable, c'était vraiment formidable, parce que grâce à la Fondation, ils ont eu accès à une œuvre universelle à laquelle ils n'auraient jamais accès. Maintenant, quand c'est une chose de faire ça, c'en est une autre de vouloir, dans une ville comme Paris où il y a pléthore d'expositions, de vouloir apporter des démonstrations pour justifier. Il faudrait pas qu'on tombe dans un truc un peu artificiel qui peut frôler. On peut arriver à l'overdose. Mais Giacometti tout seul chez Picasso, ça se justifie.
Très volontiers. Corinne Rondeau.
Oui, mais je crois qu'effectivement, vous avez raison, Arnaud, de dire pourquoi ne pas donner l'espace à Giacometti. Moi, ce qui m'a gêné, par exemple, c'est qu'il aurait pu avoir un parti pris qui aurait été plus fort, c'est-à-dire pas dans la posture. On voit bien que les rapports d'amitié ne sont pas vraiment des rapports d'amitié.
Non.
On voit bien qu'ils se disputent, enfin, ils se séparent, ils s'éloignent l'un de l'autre au moment où Giacometti devient Giacometti. Et à un moment donné, on a envie, au lieu de chercher des analogies, des fratries, formel. Il aurait fallu jouer le coup de la salle seule. D'un coup, il y a sa salle à lui, il y a sa salle, il y a la salle de l'un, il y a la salle de l'autre. Si on n'avait pas, on aurait voulu mettre quand même du Picasso. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'overdose de Picasso. Et donc, moi, j'étais quand même, non, moi, je trouve qu'il y a trop d'expos Picasso. L'année dernière, j'ai dû en avoir 4. J'en peux plus. Non, mais je trouve que c'est un des plus grands peintres.
Enfin,
c'est pas un problème.
Ouais.
Mais à un moment donné, là, je trouve que, pour le coup, et ça revient plus à ce que vous vouliez dire au début, Arnaud Laporte. je dis jamais les noms. Je sais pas pourquoi.
Bah, des fois qu'il y aura un autre Arnaud qui sera arrivé entre temps.
Il y en a, parce qu'il y a plein de noms après les Arnauds et les Corinne aussi, les Yasmine. Ce qui je trouve que dans l'expo, c'est que quand même, Giacometti, là, pour le coup, je l'ai trouvé quand même beaucoup plus fort que Picasso. Parce que je trouve que c'est quelqu'un, et là, je trouve que l'inversion des formules que vous avez eues au départ est une manière, en fait, de libérer quelque chose de trop massif de Picasso. Il est trop là, il martèle. D'ailleurs, Giacometti, il raconte une anecdote. Enfin, il cache ses œuvres quand Picasso vient parce que il a l'œil, évidemment. Ouais. Il a l'œil. Genre, non, mais j'ai rien à vous dire. C'est pas mal, c'est joli. Et en fait, on découvre que, voilà, ça s'influence pas. Ça vient piquer. Bon, c'est comme ça. Mais je trouve qu'à un moment donné, cette violence aussi, de l'un et de l'autre. D'ailleurs, il y a une vidéo de Igor Stravinsky, puisque Giacometti est en train de dessiner le portrait de Igor Stravinsky. Il dit, ah, Picasso, ah, mais je l'ai connu, c'est un monstre, lui dit-il. Et effectivement, il y a quelque chose d'une agressivité. Enfin, il y a quelque chose quelque chose s'est passé entre eux. Je trouve que ça manque à un moment donné de produire une dimension viscérale. Enfin, il y a quelque chose d'un conflit parce qu'ils sont aussi forts l'un que l'autre. Enfin, mais dans leur manière. Mais je trouve qu'à un moment donné, quand Giacometti, effectivement, et d'ailleurs, il y a des films aussi où il y a évidemment Mystère Picasso de Clouzot, et de l'autre côté, il y a un film où en fait on voit le pinceau de Giacometti et on voit bien le travail de ce pinceau qui ne quitte pas la toile, qui fait ce fil et qui revient sans arrêt. Et je trouve qu'il y a une douceur et en même temps une recherche permanente du plan dans la ligne. Et l'autre qui fait son trait, et à un moment donné on se dit ce trait de Giacometti qui est déjà dans les petits portraits sur ses supports. Ce que je trouve merveilleux, c'est que Giacometti fait que le vide est aussi important que sa petite figure, mais que le papier journal a autant d'autonomie que sa figure. Et là, je suis plus proche esthétiquement ou de mon point de vue sensible là, dans cette expo, de Giacometti parce qu'il laisse vivre, il laisse de l'air passer. Alors que Picasso, je vois, c'est des tartignoles en permanence, tu as vu comme
c'est
je suis
plein.
Fort. Et ouais, c'est le plein, et je trouve que. Et par contre, ça joue pas dans le battement, curieusement, mais Giacometti m'a donné l'air qui manquait pour moi dans au fur et à mesure de la progression de l'exposition.
Yasmine aussi.
Non, moi j'ai pas eu ce sentiment que Picasso étouffait, prenait j'ai pas le sentiment que les œuvres de Picasso s'imposent en disant regarde, je suis le plus fort. Elles ont même pas besoin de le dire, elles le sont.
Et
c'est non mais c'est
ou pas.
C'est vrai.
Ou pas.
Si elles le sont vraiment.
Bah pour vous.
Non, pour moi. Pour moi, bien évidemment. Pour moi, c'est vrai qu'il est, il écrase tout, mais c'est pour ça que des démonstrations un peu, vraiment, absolument, les pousser, ça sert pas à grand chose. Il n'empêche que c'est toujours un plaisir de voir, revoir parfois des tableaux de Picasso ou des œuvres de Picasso et de Giacometti. Que là, c'est marrant parce que la salle des animaux dont vous parliez tout à l'heure, elle est très séduisante. Là encore, peut-être je serais repartie avec toutes les pièces. Et en même temps, c'était la plus agaçante.
Oh là,
parce que c'est là où la démonstration, les œuvres prises une par une sont superbes, mais la démonstration là, elle frôle le ridicule.
Bon, on va pas finir sur cette note-là, mais dire qu'il y a tant de belles œuvres à voir.
Voilà.
Mais c'est vrai que je rejoins Corinne Rondeau, parce que ça s'appelle Rondeau, Corinne Rondeau. Non, la force de Giacometti, je trouve, est là, c'est la vraie démonstration pour moi de les voir dans ce musée Picasso. Je trouve que, comme vous dites, bam, il est là, Giacometti, hein, et il est là avec toujours moins et toujours plus fort. Donc c'est quand même, c'est pour ça que il n'y a pas besoin de démonstration, il y a à mettre en présence et en coprésence. Alors, effectivement, peut-être on aurait une salle que de Giacometti pour passer à une salle. Bon, il y aurait peut-être des vraies, pour le coup, tensions à créer dans l'exposition, mais voilà, je trouve que
ceci
ça existe
dit,
là.
Pardon, oui, on a évité le un Giacometti, un Picasso, un Giacometti, un Picasso. Oui. On a quand même évité ça. Non, on a c'est... une scénographie qui est assez fluide avec... Alors, il y a un parcours à suivre, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, avec ça, le petit 1, petit 2, petit 3, les thèmes. Enfin, c'est... Tout ça est très...
Oui. Oui. Non, mais ils savent faire des expositions, oui, quand même, oui, dans ce beau musée Picasso Paris. Musée national Picasso Paris, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. C'est là qu'on peut découvrir jusqu'au 5 février cette exposition, Picasso Giacometti, donc en collaboration avec la Fondation Giacometti. Et puis un catalogue publié par le musée Picasso et les éditions Flammarion accompagnent l'exposition.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Frédéric Basile, Fouad El Khoury, Jean-Claude Lebenstein. Avant cela, Lucille Como dans le petit salon, tout de suite. Bonsoir, chère Lucille.
Bonsoir.
Alors, ce soir, une grande annonce, puisque vous allez nous dire qu'il va y avoir une nouvelle Tour Eiffel.
Le 22 novembre dernier, François Hollande a officialisé en effet la candidature de la France à l'organisation de l'exposition universelle 2025. Alors, c'est un projet dont on a déjà entendu parler. Il court depuis plusieurs années, notamment à travers la voix de Jean-Christophe Fromentin, qui est président d'Expo France 2025 et qui est extrêmement investi dans le projet. Alors, pour le moment, aucun autre ville, aucun autre pays n'est candidat. On parle de Toronto, d'Osaka, de Bakou en Azerbaïdjan, de Manchester ou encore d'une ville russe non encore définie. Dans une lettre dont l'agence France Presse a eu une copie, François Hollande détaille les ambitions de cette candidature et annonce le thème « La connaissance à partager, la planète à protéger ». Il rappelle par ailleurs le fait que c'est un projet important pour la France dans la mesure où Paris a été marqué profondément par les expositions universelles du 19e et puis du début du 20e siècle. Et de fait, la France n'a pas été candidate depuis 1937, date de l'exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Alors j'ai regardé sur le site de la Bibliothèque nationale de France des photographies, il y en a beaucoup à disposition, des photos des expositions universelles parisiennes entre 1867 et 1900. C'est assez réjouissant de les regarder, il y a celle du Palais Oriental qui était plantée devant la Tour Eiffel, le gigantesque globe terrestre sur son flanc ouest, les trottoirs roulants, ou encore une monumentale porte orientalisante, tout ça a disparu, mais il reste quand même le Trocadéro, le Champ de Mars, le Grand et le Petit Palais, qui ont durablement marqué l'Ouest parisien. Alors que pourrait apporter aujourd'hui, de ce point de vue architectural, une telle exposition? En fait, quand on lit les détails du projet, pas grand-chose. On apprend que les sites proposés bon, déjà, ne sont pas dans Paris intramuros, c'est plutôt Saclay ou plutôt côté Val-de-Marne. On voit d'ailleurs mal où on pourrait construire une nouvelle Tour Eiffel, mais toute la région Île-de-France, donc ça concerne toute la région Île-de-France. Surtout, le projet propose une nouveauté, qui consisterait à ne pas construire de nouveaux pavillons, mais à utiliser des lieux déjà existants. Alors déjà, le projet d'emblée paraît bancal, car la construction de lieux, quand on lit le cahier des charges du Bureau international des expositions, est une condition. Donc ça paraît mal barré de ce point de vue-là. D'autre part, le thème même choisi par la France est déjà critiqué, tellement large et ouvert, comme le dit avec optimisme Pascal Lamy, qui est délégué interministériel en charge du projet, qu'il ne veut plus dire grand-chose. Bref, tout cela fait craindre une candidature au rabais, d'autant qu'existe un autre projet, celui d'accueillir les JO en 2024. Ça, c'est soutenu à fond par la mairie de Paris, qui par ailleurs ne soutient pas du tout apparemment cette histoire d'exposition universelle, et que les deux paraissent fort peu compatibles. Alors Jean-Christophe Fromentin soulignait que l'exposition universelle redonnerait de l'enthousiasme et de l'entrain à la France. Est-ce que vous, ça vous enthousiasme?
Écoutez, ça vous enthousiasme,
Yasmine aussi? Avec un thème neuneux comme ça, franchement.
Vous pouvez rappeler l'intitulé, Lucille, enfin la thématique?
Oui, la connaissance à partager, la planète à protéger.
Non, puis alors, il faut quand même savoir.
Heures, non.
Oui, c'est ça, oui, exactement. Non, moi, ça fait un moment que c'est ça, hein, le type de... d'intitulé.
Je suis tombée sur un article pour préparer l'émission là, sur ce sujet, parce que c'est vrai que c'est... L'exposition universelle, c'est pas non plus quelque chose que je suis de très près, mais je suis tombée sur un article passionnant de La Croix.
T'as l'air de vous faire rire, La Croix parce est un quotidien non, formidable.
Mais un papier passionnant de Sébastien Maillard qui nous explique qu'en fait, ce thème-là, au début, il devait choisir le thème de l'hospitalité. Il était question qu'il prenne le thème de l'hospitalité. Mmh. Et Sébastien Maillard écrit que c'est, in fine, ce thème-là a été jugé trop conceptuel et pas assez dynamique.
Ah. C'est vrai que cette période
trop conceptuelle
de troubles mondiaux, non ?
C'est voilà, c'est, ou alors on estime que le thème d'hospitalité ne s'adressant qu'aux migrants et que les migrants, par définition, ne vont pas à l'exposition universelle, ça n'intéresserait personne.
Oui, parce qu'ils n'ont pas tellement d'argent à y dépenser.
Voilà, peut-être. Exactement, puisqu'on en attend 23 milliards, je crois.
Parce qu'ils font des nuitées, mais non payantes.
Mais, et alors du coup, non, l'hospitalité, ça n'allait pas, ça n'intéresse personne. Donc du coup, on est allé choisir ce thème à la mort moelleux, qui est vraiment la tarte à la crème. Non, mais excusez-moi, c'est la nouvelle tarte à la crème, ça, on vous met développement durable.
Vous avez offusqué Corinne Rondeau.
Oui, mais non. Franchement, quoi, on vous met du développement durable, ça fait chic, ça fait bien, ça fait on est à la mode, ça fait on est... c'est déjà ce qu'ils ont fait à la précédente exposition universelle, le pavillon français de Milan. Alors, on n'est pas allé le trouver tout seul, hein, ce titre. Il paraît qu'on est allé chercher le cabinet McKinsey pour nous pondre un titre pareil. La connaissance à partager, la planète à protéger. Mais
ça a coûté combien de trouver ce titre ?
Ah, je sais pas. Là, ça a dû coûter aussi cher que d'aller trouver le nouveau titre pour le DF. Mais franchement, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule, quoi. Je trouve qu'avoir choisi, avoir dit, on prend pas l'hospitalité parce que c'est trop conceptuel et pas assez dynamique.
Ça, c'est assez grave. Mais quelle
image on donne de soi, quoi ? Image on donne de soi ?
Et ça intéresse qui, en fait, les expositions universelles, par ailleurs ?
Normalement, c'est censé donner à voir la grandeur de ce qu'on est.
C'était au bon 19e siècle,
non ? C'est sûr que pour l'hospitalité, en ce moment, la grandeur, elle fait un peu défaut.
Mais c'est vrai que la dernière dont on a parlé, me semble-t-il, c'était Séville.
Séville, 92.
Mmh. Donc, c'est une autre ère. On peut dire ça comme ça.
Oui, tout à fait. C'était la dernière grande exposition universelle avec un TGV. Vrai intérêt.
Non, mais à Milan, qu'est-ce qu'il y a eu là?
Ah, Milan, je croyais que c'était quoi le bilan de Séville?
Non, Milan, il y a eu Milan il y a.
Oui, l'an dernier.
L'an dernier. Et l'an dernier, déjà, il était question de développement durable. Donc, moi, je veux bien, ça fait bien de sortir ce thème tous les trois matins. Mais je sais pas, un peu de jugeote, quoi.
Oui, je crois que ça
surtout. Surtout pondre, d'être payé un cabinet pour pondre un titre aussi débile. Enfin,
Mais t'es énervée, hein.
Ah oui, ça m'énerve.
Corinne Rondeau, ça vous inspire quoi, les expositions universelles ?
Non, j'adore toutes les archives liées.
Oui,
enfin, évidemment, quoi. Ça avait du sens. Ça avait du sens dans une sorte de début de mondialisation, on va dire. Mais c'était aussi que l'Europe, les capitales, enfin, les pays se tiraient la bourre sur, justement, l'invention, l'industrialisation. Aussi le goût pour le beau, hein, faut pas oublier, quoi, avec l'invention du design, la moitié du 19e siècle, quoi. Donc là, je trouvais qu'il y avait une vraie innovation, il y avait un vrai sens.
Parce que la notion de progrès qui allait avec, les nouvelles machines, les nouvelles.
Il y avait une dimension très concurrentielle, il y avait une vraie raison. Parce que chaque pays avait sa manière de fabriquer quelque chose au début de l'industrialisation. Voilà, les tapis roulants, quand on les a vus l'année dernière, ou il y a deux ans, au Petit Palais, parce que ça, c'était sur les expositions universelles, c'était absolument formidable, parce que d'un coup, on découvre quelque chose qui est quotidien et qui était déjà là. Enfin, je veux dire, moi je rêverais qu'à Paris, il y ait encore ça. Moi je rêverais qu'il reconstitue. Voilà, je rêverais qu'il reconstitue avec des hologrammes.
L'ancien palais avant Chaillot, ouais. J'avoue que effectivement, c'était très très beau. Hein. Ça, c'est 1900 ça. Ou c'était celle d'avant,
non,
1887
c'est juste avant. Oui, c'est ça.
Ouais, parce qu'à l'époque, on faisait assez souvent l'exposition universelle, y compris à Paris.
Oui, c'est juste clair. Yasmine. Mais d'un mot, il y a eu une très belle exposition l'année dernière, il y a pile un an. Je l'ai vue il y a pile un an à Lyon, au musée des Confluences, de l'homme et la machine, et qui donnait à voir justement ce que les expositions universelles, comment elles ont mis en avant toutes ces inventions et la beauté des objets, des pièces qu'on inventait, que ça soit une hélice, que ça soit comment ça a inspiré ensuite les artistes. Les hélices, il y avait.
Ça avait été repris pour l'exposition qu'il y avait eu à Paris. C'était sur l'aviation notamment, sur la.
Voilà. Faut chuchoter tout d'un coup quand vous avez d'exposition universelle.
Non, mais pas du tout. C'est parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt et que
Cette annonce est quand même assez curieuse aussi, même si ça fait longtemps qu'on y travaille.
Après les JO.
Non, mais il y a le Jeux Olympiques, effectivement, alors que le projet vraiment Mérite Paris est soutenu vraiment du bout des lèvres par la présidence de la République.
Les JO, ça a toujours envoyé les villes dans la catastrophe. Regardez Athènes, regardez toutes les villes qui ont fait les JO.
Ça n'a pas été une catastrophe pour Londres, me semble-t-il.
En tout cas, ça a grévé beaucoup le budget contre beaucoup de choses. Les retombées ne sont pas forcément celles qu'on attend.
Bon, enfin, les retombées d'une exposition universelle, je ne suis pas sûr. Bon, 2025, nous verrons bien ce qu'il en sera. Vous aviez d'autres questions?
Non, mais c'est étonnant que c'est très lié à ce que devient justement ce concept même de progrès ou de technique. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus d'intérêt pour une exposition qui montrerait justement le progrès technique aujourd'hui. C'est assez étonnant. Parce qu'au fond, les trottoirs roulants en 1887, j'imagine qu'aujourd'hui, il y a l'équivalent. Enfin, on pourrait avoir une curiosité pour ce qui existe aujourd'hui.
Oui, mais en termes technologiques, c'est le numérique. Les innovations se font là, nanotechnologie. Évidemment, ça n'a pas la puissance physique et la présence, parce que voilà, c'est bâtir pour mettre aussi le progrès, les objets, les inventions. Enfin, on parle... Enfin bon, voilà, c'est...
Mais les sociétés...
C'est la question de la matérialisation.
Non, mais puis en plus, le 19e était une période charnière de transformation des nations, des capitales, des métropoles. Je veux dire, il y a vraiment une mécanisation. Enfin, c'est l'ère de la machine qui rentre dans la vie des gens. Aujourd'hui, ça n'a pas le même sens. Donc, c'est pas la question. On peut pas l'exposer de la même manière. Et ça peut pas se présenter de la même manière.
L'inauguration du métro, c'est Expo de 1900, me semble-t-il, aussi, à Paris. Mais c'est vrai que aujourd'hui, tout ce qui serait lié à une nouvelle technologie, les sociétés n'ont pas besoin de, les sociétés au sens marchandes n'ont pas besoin de d'exposition universelle. On se doute que Apple ne présentera pas son nouveau produit à l'exposition universelle, mais à l'endroit qu'il a choisi, qui est sa base et qui va gérer la communication de cette façon-là.
Mais quelle image on veut donner de soi, quoi ? Quelle image on veut donner de soi ?
Non, mais peut-être qu'il ne faut pas donner d'image de soi aussi. Il faut faire juste son job, vous voyez ?
Non, mais d'accord, mais ça serait quoi son job ?
Non, mais parce que vous faisiez la critique de l'hospitalité. Et puis voilà, il faut faire ce qu'on a à faire et puis arrêter de faire des trucs qui sont... Voilà, c'est juste des camouflets, tous ces trucs-là. On dépense de l'argent pour rien, en faisant croire aux gens qu'il se passe des trucs. Bon, écoutez, ce qui se passe, c'est qu'il faut un peu regarder où on va, quoi. Au lieu de dire l'avenir est ici. Non, c'est pas vrai. Puis, le développement durable, ça fait même dans le champ du design, on sait que c'est une escroquerie. Enfin, je veux dire, on sait très bien que la question du déchet n'est pas réglée avec le développement durable. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces esbroufes. Il faut arrêter de nous dire que le monde est meilleur demain, parce que, apparemment, il y aurait des techniques qui... Non, non. Non, non, non. La voiture électrique, c'est formidable, sauf que les batteries, on peut pas les recycler.
Ça y est, il est parti, là.
Non, mais je veux dire, il faut arrêter avec ces trucs-là. Et puis, ça coûte trop d'argent.
Il faut le mettre ailleurs, cet argent-là.
Oui, exactement. Là où c'est nécessaire.
À l'hôpitalité.
Dans l'hospitalité, par exemple.
Finissons sur ce mot-là d'hospitalité pour refermer ce petit salon. Il est temps maintenant de découvrir vos véritables coups de cœur à l'une et à l'autre. Des livres ce soir, Yasmine Youssi, Lettre à mon fils, Fouadel Khoury, illustration de Lamia Ziadeh, c'est chez Actes Sud Junior.
Oui. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un livre hors norme qui nous apprenait à dire neige en islandais. Et là,
Snurge.
C'est un tout petit... Snurge. Voilà. Avoir des deux mains à la galerie de l'Europe. Et là, vous avez un tout petit livre dont j'aimerais parler, celui de Fouadel Khoury. Tout petit par sa taille, d'abord, le nombre de photos, il y en a une trentaine, et néanmoins extrêmement profond et extrêmement émouvant, dans le sens où Fouadel Khoury s'adresse à son fils. Un jour, son fils lui demande de lui mettre de côté des livres de photos. Et il décide en fait de lui raconter sa vie à travers une photo par jour accompagnée d'un mail. Alors Fouadel Khoury, il faut juste rappeler qui c'est l'un des plus grands photographes libanais. Il est né en 1952, il s'est fait connaître en photographiant la guerre civile, c'est-à-dire lui il était parti pour être architecte. Et donc il fait ses études à Londres, il rêve d'être photographe, mais en fait non, ses parents voudraient qu'il fasse architecte et tout. Sauf que architecte dans une ville en guerre civile, ça fait un peu chaumiste très vite. Donc il a pu... On devient showbiste, oui. Donc il a pu enfin embrasser la photographie. Et donc à travers ce livre, il envoie tous les jours une photo à son fils et il raconte qui il est, il raconte d'où il vient et il parle de photographie, ce que c'est que la photo, ce que c'est qu'être photographe. On voit aussi l'évolution du médium au cours des 20-30 dernières années, comment du photoreportage pur et dur, il passe petit à petit à une photo plus plasticienne.
ancienne, comment aussi l'arrivée du numérique, ce que c'est que faire un portrait. Il raconte beaucoup de choses par rapport à ce que c'est qu'être photographe, un métier pour lequel on dépend de la chance et de la malchance. Il raconte par exemple qu'il a la chance d'être sur le bateau qui en 82 quitte Beyrouth avec Arafat à son bord, et donc il fait cette photo assez célèbre d'Arafat de dos avec son keffieh. Il en fait d'ailleurs une sans le keffieh, donc pour la première fois on va Arafat sans le keffieh. Il a monnayé cette photo contre un poste à Paris, dans une agence, parce qu'il n'en peut plus de la guerre civile, donc il est le seul à avoir cette photo-là, sauf que le lendemain, il y a Grace Kelly qui meurt. Mmh. Donc à part Libé, cette photo, finalement, elle a très peu été utilisée. Voilà, il y a le quotidien, vraiment aussi le quotidien, ce livre, il est beau parce qu'il est simple, les mots sont vraiment simples, il n'y a pas de lyrisme, il n'y a pas d'esbrouf, il n'y a pas de « je t'en mets plein la vue », c'est des choses vraiment ténues, comme ça, qui sont dites. Et c'est très très beau. Ce que c'est, comme sa photo la plus célèbre, c'est celle d'une comédienne égyptienne très connue à l'époque, qui pose dans un cinéma avec un manteau de fourrure et elle est toute seule. Et en fait, il l'a eu complètement par hasard. Et c'est vraiment, on arrive vraiment au cœur de ce que c'est que la photo, quoi. C'est
Lettre à mon fils.
Oui. C'est aussi bien un livre que peut comprendre un adolescent qu'un adulte, et le plaisir aussi de retrouver ses photos.
On ne m'a pas parlé des illustrations de Lamia Ziadé.
De Lamia Ziadé qui illustre chaque de son côté, parce que Lamia Ziadé aussi est peintre et elle est libanaise. Et donc elle reprend des morceaux, elle ne reprend pas ses photos, elle reprend des morceaux de mail. Elle part du mail pour proposer une illustration. À un moment, il explique comment il a photographié. À un moment, il n'en pouvait plus. Il n'arrivait plus à trouver beaucoup de sujets. On lui prenait plus ses photos. Et donc, il décide d'aller en Égypte pour photographier les écrivains égyptiens. Et la chance qu'il a, c'est que quelques mois après, Naguib Mahfouz obtient le prix Nobel. Et donc, il est le seul à avoir son portrait. Donc, Lamia Ziadé va faire comme ça une série de portraits, parce que c'est un monde qu'elle connaît bien pour le dernier livre qu'elle a publié, J'ai perdu le titre.
C'est mal.
Mais si on pouvait le mettre sur le site, parce que c'est aussi un livre magnifique.
Vous verrez ça avec les équipes vaillantes de la dispute.
Merci.
En tout cas, le livre est publié chez Actes Sud Junior. Autre livre aux éditions Macula. Vous aimez bien Corinne Rondeau, hein ? Un livre de Jean-Claude Liebenstein.
Bah oui.
Bah oui.
Bah oui, figure puissante. Je ne parle pas de tous les livres de chez Macula. Non.
Ils en sortent d'autres ?
Comment ?
Ils en sortent dont vous ne parlez pas ? Non, je plaisante.
Si, je faisais ça.
Je sais, je rigole.
Non, parce
figure
que...
Figure puissante.
D'abord, j'aime beaucoup Jean-Claude Liebenstein. Et ensuite, figure puissante, vous dites, non, d'une pipe en bois. Je veux voir ça tout de suite. Alors évidemment,
il n'y a guère que vous qui employez encore cette expression.
Je crois.
Rondeau.
J'avais lu figure puissante.
Non, figure puissante, cher.
Non, d'une pipe en bois.
Ouais.
Et donc, c'est alors un ouvrage de plaisir, de l'innocence à l'indécence, sans aucun problème. C'est un trésor iconographique où il faut vous procurer d'une loupe, car les illustrations ne sont pas tout à fait petites. Il y en a 160, pas tout à fait grandes. Elles sont au nombre de 160 à peu près. Et donc, il y en a certaines, parce que c'est un livre de plaisir aussi, de chercher un certain type de détails, puisqu'en fait, vous avez des parties qui sont assez courtes de texte, et puis des carnets d'images qui sont assez nombreuses, qui découpent le livre. Et en fait, vous n'arrêtez pas de faire des allers retour finalement dans ce livre, et donc c'est un grand plaisir parce que toutes ne sont pas non plus commentées, donc il faut aussi être à la découverte de ces trésors d'images avec un travail d'iconographie et toute une amitié aussi derrière. On voit qu'en lisant le livre de Liebenstein, il y a des gens qui lui ont dit tiens regarde ça, donc il faut lire aussi les notes formidable qu'il y a dans ce livre. Donc en fait c'est un livre d'érudition et un livre à la fois, ne cherchez pas d'interprétation sur la question du Manneken Pis, qui commence comme ça, c'est-à-dire c'est une icône à la Joconde, c'est-à-dire c'est
tout le monde connaît.
Il a été plus volé que la Joconde, mais oui, enfin c'est une
facile
icône
à voler
aussi.
En même temps.
Et donc ça commence par là, mais en fait c'est un style italianisant qu'on retrouve dans l'Antiquité sur des sarcophages. Ça revient aussi sur la dimension de la Renaissance avec le songe de Polyphile, où on voit d'ailleurs une gravure qui est reproduite, enfin vous savez, il y a beaucoup de représentations dans le songe de Polyphile. Et donc, en fait, vous avez une espèce d'apax qui est au-dessus d'une architecture avec deux nymphes qui tiennent un enfant qui se met à pisser. Puisque c'est la question, les figures pissantes, c'est pas le manneken Can Peace. Et comme le livre est effectivement lié chronologiquement, bon, il y a la figure iconique, on va dire, du Can Peace, mais ça va jusqu'à Serrano, jusqu'à Warhol, sur le Kipi, sur le portrait de Basquiat, mais on pense, on traverse aussi des textes de Freud, on traverse, à la fin, on a un contrepoint entre Warhol et Coleridge, le poète anglais. Donc, tout ça est tissé avec beaucoup de style, beaucoup de légèreté. Ne cherchez pas donc les interprétations dans la mesure où c'est une découverte, c'est avancé dans l'histoire. Et il y a à moitié livre, vers la page 70, on a les puissantes. C'est-à-dire, non pas comme on le dit, les puermingens, enfin, ça c'est du latin, mais je sais plus si on dit mengens ou mengens en latin, c'est-à-dire l'enfant pissant, les poutis qui pissent partout. Il y a, un tableau, par exemple, une reproduction de l'âge d'or de Jacopo Zucchi, où il a un ami, Zilberstein, où note 66, page 81, on va faire le calcul de la courbe du GU, d'urine de l'enfant pissant, qui va avec une étude à côté. Alors, tout ça est formidable, puisque vous avez des calculs géniaux avec une équation. Donc c'est à la fois du plaisir, c'est de la rencontre avec des matières qu'on a oubliées ou qu'on revient et sur lesquelles on revient. Et l'épicente, l'épisseuse plutôt, c'est le moment où en fait l'innocence de cette aqua santa, qui est une expression encore actuelle en Italie, c'est les jets d'urine inattendu des enfants en bas âge. Et cette innocence qui part du petit, du bambi, et puis des putti, et puis ensuite des hommes qui, sans arrière-pensée, se mettent à pisser parce que finalement l'âge d'or, comme dans le Ovide par exemple, il y a pas de violence, il y a pas de travail, il y a pas de domination, donc tout va, il y a pas de provocation, on va dire. Et à partir de Rembrandt et de Boucher, deux personnages avec une pisseuse, puis un boucher, il y a une pisseuse, mais derrière, commence à y avoir un voyeur derrière une vitre. Là, la question de l'indécence apparaît progressivement. Et donc, on a oublié que il y avait des vertus propriatoires de l'urine, il y avait des vertus médicinales, magiques, des tas de choses anthropologiques. Alors, il fallait savoir que au XVIIIe siècle, chez le Zotento, le prêtre urinait sur le couple pendant la cérémonie de mariage. Et ça me réjouit beaucoup. Chez les Inuits, par exemple, la vessie, c'est le siège de l'âme. Qu'en Nouvelle-Guinée, eh bien, un rite d'initiation pour que le jeune homme devienne guerrier, eh bien, l'ancien lui pisse dessus aussi. Alors, évidemment, ça va aller jusqu'au Golden Shower, évidemment. Et donc, ce qui est formidable, c'est que d'un coup, on se dit, mais si on a oublié tant de bienfaits de l'urine et tant de bienfaits liés à cette représentation, c'est quand on oublie que tout devient indécent, que les brigades des mœurs arrive évidemment la question de aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un enfant qu'on prendra en photo en train de pisser? Bon, ben là, vous allez en prison immédiatement, vous avez un procès. Et ce livre, sans juger, sans dénoncer, nous fait un trajet historique et nous dit, finalement, ça serait quand même bien de retourner aux métamorphoses d'Ovide, aux songes de Polyphile, et de s'amuser quand même avec des représentations dans lesquelles il n'y a pas toujours des sales choses à voir. Et n'oubliez pas la loupe pour voir ces icônes. Moi, j'ai pris des fous rires et un plaisir.
On l'imagine. Non, mais le plaisir, vous l'avez transmis.
Non, mais c'est le coup que vous êtes obligé d'aller vers ce livre. Vous voyez, vous êtes obligé de vous rapprocher de ces images. Donc, il y a un plaisir de la pulsion scopique qui est « mon Dieu, retenez-moi ».
Figure puissante. 1280-2014, ça, c'est le volet temporel choisi par Jean-Claude Lebenstein pour cette étude très précise qui paraît aux éditions Macula.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Alors, y a-t-il des pisseuses chez Basile? Il y a du cornu. Il y a du pisseur, peut-être. En tout cas, c'est de lui qu'on va parler à présent pour cette exposition Musée d'Orsay, Frédéric Basile, la jeunesse de l'impressionnisme, dont le commissaire est l'excellent Michel Hiller, conservateur général du patrimoine et directeur du Musée Femmes à Montpellier, qui est épaulé ici par Paul Perrin, conservateur au Musée d'Orsay, et Kimberly Jones, qui est, conservateur du département des peintures françaises de la National Gallery of Art de Washington, D.C.
Thank you.
Il est né en 1841 dans la bonne ville de Montpellier, Frédéric Basile, mort au combat le 28 novembre 70 à Beaune-la-Rolande lors de la guerre contre la Prusse. Il était monté à Paris en 1862 pour s'inscrire à l'atelier du peintre Charles Glaire. Il va y rencontrer Claude Monet, puis votre cher Auguste Renoir, Corinne Rondeau. Et puis il va faire très vite partie d'un groupe d'artistes, Basile, aux côtés de Degas, Sisley, Manet, Berthe Morisot, Cézanne, Pissarro, mais aussi Émile Zola ou Verlaine. Il se passionne aussi pour le théâtre, pour l'opéra. La guerre, donc, viendra le faucher juste avant ses 29 ans. Et avant donc l'avènement des surréalistes en 1874, l'exposition présente évidemment nombre de toiles de Basile parmi la soixantaine qu'il a laissées, mais elle présente son œuvre en regard de celle de ses contemporains, comme Delacroix, Courbet, Manet, Monet, Renoir, hein, ils sont tous là, ils sont venus, ils sont tous là, Fantin, Latour, Cézanne, bien sûr. C'est une exposition qui avait été présentée au musée Fabre à Montpellier cet été, où je l'avais vue, qui ira ensuite à Washington. Pour l'instant, elle est au musée d'Orsay, Corinne Rondeau.
Oh, quel bonheur. Moi, j'avais vu de village à Montpellier il y a longtemps, et enfin longtemps à l'ouverture, on va dire.
Ça commence à faire,
oui. Mais c'est surtout le souvenir que cette peinture est d'abord de la lumière. Donc j'avais eu grand plaisir d'y aller, curiosité aussi d'y voir un ensemble important. Et je dois dire que la première salle m'a séduite dans la mesure où, en fait, on arrive sur un autoportrait de lui, il a la palette à la main, il se retourne comme avec un regard inquiet. Inquiet de, alors on est déjà un peu en train de rêver de cette inquiétude, comment va-t-on le voir, mais c'est aussi vous êtes indiscret, et il a une présence très forte de ce regard. Et puis il y a deux tableaux dans cette salle que je retiens, c'est à la fois l'étude qu'il fait d'un Véronèse, qui est le mariage mystique de Sainte-Catherine, et donc on voit la faiblesse quand même de la copie, et puis le nu couché, qui est un très beau tableau qui a, je dirais, une influence de la Croix, mais on pense aussi à l'Olympia de Manet, on pense aussi à Courbet, mais il a une très grande autonomie, et je dois dire que ces deux tableaux, ils sont présents à mon esprit parce que Véronèse et le nu couché, c'est un travail vraiment de, alors. On voit pas son visage, elle a un bras qui recouvre son visage, elle a la tête qui est tournée, et puis il y a un drapé de une étoffe fleurie sur sa hanche, donc on voit pas de sexe, et puis donc elle est moins provocatrice que l'Olympia de Manet notamment, et puis on voit une mule sur le tapis, donc il y a un travail sur la fleur, le motif, des motifs comme ça, et ce corps et des carnations très très belles, et moi ça me fait toujours penser cette Suzanne et les vieillards au musée de Lyon. C'est un tableau que j'aime beaucoup de Véronèse, alors que je n'aime pas Véronèse. Et Suzanne qui est happée par un vieillard, et en fait elle a le pied sur une mule, mais on voit bien qu'elle vient de se recouvrir, qu'elle vient d'être découverte, et elle se recouvre. Et cette mule, je n'arrête pas de penser à ce rapport érotique, masqué, voilé, qu'on découvre tout au long de l'exposition. Puisque c'est, je dirais que moi j'ai complètement oublié tous les artistes qui l'entourent. Sauf évidemment dans la salle où on a des paysages, beaucoup Monet et Basile, où on voit que la touche de Manet, elle est rapide et sûre, alors que Basile a une touche plus précise, plus lente, mais très profonde. Il y a des paysages qui sont admirables. Il y a notamment, le tableau dans cette salle où Monet s'est blessé, et donc c'est l'ambulance improvisée, et il y a des coups de pinceau sur le blanc de la chemise, plus écru sur les drapés, il y a un pli sur le lit, et puis vous avez deux touches sur la vasque verte et une porcelaine blanche. Bon, ce tableau est tout à fait admirable. Et alors là, ce qui est formidable, une femme couchée, une mule, Monet couchée. Puis vous allez vers quoi? Ce grand tableau qu'on va voir, je vais laisser la parole à notre amie Yasmine. Vous avez quand même ce tableau qui est le plus connu, qui est aussi à Orsay, qui est la réunion de famille. Et ce tableau, quand même, moi, j'ai découvert quelque chose, que je dirai après. Voilà, quelque chose parce qu'il y a quelque chose.
À quelque chose parce qu'il y a quelque chose.
Oui, parce qu'il y a un truc qui me fait rêver, en fait.
Yasmine Yossi.
Il est fascinant ce tableau de la réunion de famille parce que il raconte tout le dilemme, enfin ce que ça a été aussi la vie de Basile comme ça, Frédéric Basile, c'est-à-dire que il peint toute sa famille qui le regarde comme s'il était le photographe.
Alors qu'il est dans le tableau.
Alors et en fait, il y en a qu'un qui ne regarde pas, c'est le père. Et tout son drame, ça a été ça aussi. Enfin, après son père, c'est-à-dire qu'il voulait aussi bien faire plaisir à son père en étant étudiant en médecine que faire de la peinture, qui était son rêve, quoi. Et finalement, son père lui permet. Quand vous parlez de bonheur, Corinne Rondeau, c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. C'est le bonheur de cette exposition. Elle m'a fait penser à une autre exposition. Vous vous souvenez, il y a quelques années, je me demande si c'était pas avec vous, Corinne, qu'on avait parlé de Bohème. Vous vous souvenez de ça?
Au musée d'Orsay?
On avait parlé de au Grand Palais. Bohème au Grand Palais et on avait dit tout le mal qu'on pensait de la scénographie de Robert Carsen qui faisait Grand Guignol. Vraiment Grand Guignol. Eh bien, il y a beaucoup de tableaux de Basile qui racontent exactement la même chose. Cette bohème de cette époque-là, puisque bon, lui était plus riche que les autres grâce à ses parents. Et il va raconter ce que c'était que leur vie, la vie de ces impressionnistes. Et c'est assez touchant de les voir tous, c'est-à-dire tous ceux qu'on connaîtra après grâce au film de Guitry, grâce à Monet avec sa longue barbe, Renoir, tout ça. Là, on les voit dans leur jeunesse, dans la foule, le dynamisme qui les anime. Qui se regardent entre eux, qui se peignent entre eux parce que des fois, ils n'ont pas assez d'argent pour payer des modèles. Donc, ils se peignent les uns les autres. Et cette mise en abîme comme ça, elle est magnifique aussi quand vous avez cette nature morte du héron. Tout le travail autour de cette nature morte, enfin la présentation autour de cette nature morte du héron, elle est géniale parce que vous avez la nature morte de Basile, c'est-à-dire un héron qui est suspendu par les pieds, qui est cloué, mais il a un côté presque christique comparé aux autres qui mettent les hérons à l'horizontale. Vous avez le tableau de Renoir qui est en train de peindre Basile en train de peindre son héron, et vous avez le tableau de Sisley qui peint le même motif mais totalement différemment. Et c'est ce que j'ai aimé dans cette exposition, c'est que d'habitude c'est toujours Basile qui accompagne les autres. On le met comme ça, et là c'est les autres qui l'accompagnent. Et moi dans la salle des paysages, bizarrement, j'étais là en train de me dire, sans voir les noms, et Sophie Cachon chez nous me disait exactement la même chose, sans voir les noms de certains paysages, enfin de Sainte-Adresse, on disait, il est pas super sur ce tableau-là, c'est pas son meilleur, en fait, c'était un tableau de Monet. Voilà, et lui, ses paysages et cette manière de travailler sur la lumière du Sud, sur cette lumière rose caressante, que la robe rose, on sait pas très bien si c'est la lumière qui a déteint sur la robe ou si c'est la robe qui déteint sur le paysage. Le jeu entre les ombres, la fille dans l'ombre, c'est sa cousine qui a 14 ans. Tout ça est absolument magnifique. Et puis, bien sûr, on ne peut pas ne pas parler des nus masculins, qui sont sublimes, qui sont vraiment... alors là, autant les... Moi, j'ai été moins touchée par les nus féminins, mais ce sont des corps qui sont absolument pas idéalisés, mais des hommes tout en muscles, aux fesses charnues, enfin, alors ça, c'est très très beau.
Bon, voilà. On n'a plus que 2 minutes 30 pour enfin connaître ce qu'il y a... attirer Corinne Rondeau.
Non, mais je peux vous en parler à peu près pendant 2 heures. Oui, alors, je vais aller au
donc
plus.
Donc, 2 minutes.
Si vous regardez absolument tous les tableaux, alors, il y a la réunion de famille au centre. Vous avez un bouquet de fleurs, chapeau, ombrelle au sol central. Il fait cette peinture après avoir fait la terrasse de Méric qui est refusée au salon 66. Et donc, on a l'impression que vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Parce que dans la terrasse de Méric, vous avez une petite fille à genoux près d'un chien. Les deux chiens, il y a un chien qui nous regarde. Et entre la famille et la petite fille, il y a un chapeau qui est posé au sol. Vous avez toutes les fleurs. Vous avez notamment un bouquet de fleurs qui est au sol enroulé dans du papier quand les autres sont dans des pots. Vous avez les dernières figures, les deux tableaux inachevés. C'est une étude de jeune homme nu qui est sur le ventre, couché. Il travaille un peu à la vénitienne, hein, sur des fonds qu'il reprend. C'est quand même deux tableaux qu'il reprend. La jeune fille au piano qui avait disparu, c'est le tableau sur lequel on va voir Ruth et Booz, un épisode de la Bible, mais à travers le poème de Hugo. Et on voit bien que là, les figures sont à l'horizontale. Monet est à l'horizontale. La jeune femme couchée. Et En fait, il y a quelque chose de cette peinture, et même le héron, qui est peut-être même un autoportrait, puisque vous dites, ils sont couchés, les autres vanités, les autres natures mortes sont couchées, les animaux sont couchés. Là, il le suspend en se peignant lui-même. Il y a quelque chose de la déposition dans la peinture de, recherche une déposition. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est que sans sa famille, il ne serait pas là. C'est absolument sa mère qui, quelques années, en 1898, va donner deux tableaux à Montpellier. Et c'est là que Roger Marx, puis deux autres critiques, vont s'emparer. Mais le frère de Basile...
L'Expo Universelle de 1900, justement, exactement, montre des Basiles.
Le frère de Basile, puis la nièce de Basile. Et ce qui est beau, c'est que cette femme va donner notamment le portrait, la nature morte au héron. Mais... Et je ne sais plus l'autre. Ce qui est beau, c'est qu'il y a quelque chose, une dimension de piéta. Elle va donner quelque chose du corps de son fils qui reste encore dans la peinture. Et je trouve qu'il y a une dimension là du dépouillement de sa peinture, parce que les corps sont dans une sorte d'abandon à la fin. Et ça, je trouve ça très beau. Il faudrait peut-être se poser cette question presque contemplative de l'abandon des corps.
Trois petits points.
Non, mais ça me ravit.
Ça vous ravit. Frédéric Basile, la genèse de l'impressionnisme. Cette exposition est au musée d'Orsay jusqu'au 5 mars. Elle sera ensuite présentée à Washington du 9 avril au 9 juillet. Et puis, bien sûr, il y a un catalogue coédité par le musée d'Orsay et les notes.
Les notes sont formidables.
Voilà. Et Flammarion, coédition musée d'Orsay et Flammarion. Et nous concluons avec le jeu de la dispute et d'abord un rappel du jeu d'hier au soir, Lucille Como.
Oui, en 92, Carlos Saura est choisi par les autorités pour réaliser un film sur un grand événement sportif qui se tient cette année-là en Espagne. De quel événement s'agit-il ? Réponse, les Jeux Olympiques de Barcelone.
Et on fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film L'Ornithologue de Jean-Pedro Rodriguez, sorti aujourd'hui au cinéma. Quelle est la question ?
Oui, ce film est produit entre autres par une école d'art française. Laquelle ?
Votre réponse, c'est que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfranceculture@radiofrance.com. Et ainsi s'achève la dispute de ce soir. Merci à vous Corinne Rondeau, Yasmine Youssi et Lucille Como d'y avoir pris part avec moi. Information sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez également réécouter ou podcaster nos émissions. Merci à l'équipe qui prépare la dispute, Virginie Leduo, Josué Morel et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Julien Toumain, réalisation Daniel Finot. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Emmanuel Giuliani et Anna Sigalevitch. À notre affiche, un opéra, Cavaliera Rusticana, Sancta Susanna de Pietro Mascagni. C'est à l'Opéra de Paris. Et puis deux disques, un disque Les French Suites de Bach par Murray Peraya et Oh Boy de Marianne Crebessa. Tout cela, c'est pour demain. Avant cela, vos programmes se poursuivent sur France Culture. À 22h15, les discussions du soir. Et dans quelques instants, le journal de la rédaction.